Terrorist networks, terrorist states.
Mais non, nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique, 148e émission. Gilles Gouget vous salue. Bonjour Pascal.
Bonjour Gilles, bonjour à toutes et à toutes.
Pascal de retour après une petite semaine. Il nous a laissé tout seul dans le studio.
Ouais, oui, mais c'était pour la bonne cause.
Voilà, c'était pour la bonne cause et on en reparlera sans doute au cours de cette émission dans laquelle, eh bien, on fera un petit tour revue de presse de l'april pour la semaine 46 avec Luc, Manu et Nico, quoique Nico soit pas là aujourd'hui. Et puis on aura aussi Jeanne Tadeuse jointe hier après-midi au téléphone pour parler, pour parler de la circulaire Héros, la bonne volonté du gouvernement pour les logiciels libres qui reste à se concrétiser en actes concrets, évidemment. Et puis on parlera aussi brevet unitaire avec les dangers qui pèsent actuellement face à l'INA. Action généralisée des instances concernées au niveau européen. Et puis on parlera des rencontres mondiales du logiciel libre 2012, puisqu'on aura Lionel Lourdin au téléphone pour faire un petit bilan, ce qui nous donnera l'occasion de parler aussi des RMLL 2013, voire 2014.
Alors 2013, c'est sûr, puisque c'est sorti aujourd'hui. Et 2014, c'est encore à voir, puisque le comité donnera sa décision le 1er décembre 2012.
Voilà, le 1er décembre 2012, ce qui est déjà bien. Et puis on aura aussi quelques petites new news diverses et variées pour vous donner les rendez-vous du libre à venir dans tous les coins. On salue les auditeurs de Radio Escapades.
Oui, sur leurs différentes fréquences, 103.3, qui connaît quelques soucis actuellement, et 104.1 et 102.0, 102.0 sur la salle.
Et voilà, et nous pourrons très prochainement saluer les auditeurs de Radio Larzac, qui va très prochainement diffuser Divergence numérique.
Encore deux nouvelles fréquences.
Nous ne pouvons que nous en réjouir, et un petit clin d'œil à nos amis de CKIA, qui n'ont plus qu'Internet pour nous écouter. Ces temps-ci, gageons qu'on essaiera de rabibocher tout ça pour faire des échanges avec le Québec où des choses se passent aussi dans le libre. Bien évidemment, comme on l'a déjà entendu plusieurs fois dans la revue de presse de l'April, qui n'en parlera pas aujourd'hui, mais qu'on écoute tout de même.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire
de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, la semaine 46 de l'année 2012. Salut Manu.
Salut Luc.
Le sommaire de cette semaine.
Alors, une
enfin,
semaine.
De la semaine passée.
De la semaine passée, oui, effectivement, mais de la semaine qu'on est en train de faire. Donc, cet article, hein, on reste à peu près dans les clous de ce nombre magique. Donc, on va vous parler de brevets unitaires, la Linux Foundation, l'Open Data, l'Open Innovation, nouveau concept, mais l'article est vraiment intéressant. Le logiciel libre et le propriétaire, mais dans le secteur public, l'économie et le libre. Et pour finir, on va reparler encore une fois de brevets logiciels, parce que c'est un bon sujet, mais ce coup-ci, plus du point de vue des entreprises.
PC Impact, brevet unitaire, réunion accélérée, inquiétude accentuée, un article de Marc Ress.
Et oui, c'est en ce moment même que ça se joue. Le brevet unitaire, il y a des grosses évolutions, on va vous en parler un petit peu, mais déjà là, c'est quoi là qui se joue? Il y a un truc ce soir,
alors,
cette nuit?
Alors, il y a la commission jury qui se réunit et ça a été accéléré. Il faut comprendre qu'au niveau du Parlement européen, il y a des commissions spécialisées avec des députés qui connaissent les sujets, en tout cas les matières. Donc, commission jury, c'est la partie juridique, évidemment.
Comme son nom l'indique.
Comme son nom l'indique. Et c'est très important parce que les conclusions qu'elles arrivent, elles sont ensuite votées par le Parlement. Mais en général, le débat, il se situe très en amont au niveau de ces commissions. Et le Parlement a plutôt tendance à adopter la position de la commission ou en tout cas des partis qui ont été dans la commission. Donc tous les débats se font essentiellement dans ces commissions-là. Donc c'est très important d'intervenir maintenant.
Surtout quand, j'imagine bien, comme là, ça semble toucher des points assez spécifiques, assez précis. Je comprends bien, il y a des articles 6 à 8, qu'est-ce qui leur est arrivé?
Ces articles-là, sans rentrer dans le détail de leur contenu, il est question de les supprimer. Et ça poserait de gros soucis parce qu'en fait, ça liquiderait une bonne partie du pouvoir de contrôle des institutions européennes. c'est-à-dire qu'on n'aurait plus le contrôle politique.
Sur l'Office européen des brevets, qui est pourtant européen, soi-disant.
Qui n'est pas une institution européenne, contrairement à ce que le nom veulent croire, on l'a dit déjà plusieurs fois, hein, mais c'est toujours bon de le répéter, c'est un truc, une sorte d'entité autonome qui était héritée d'accords internationaux, et voilà, c'est des gens qui sont en roue libre, c'est des gens qui font du business par le brevet, et qui seraient enchantés de faire du brevet logiciel. Donc,
mais, attends, je rappelle, eux, ils ne seraient pas enchantés d'en faire, ils en font déjà, il y a déjà des milliers de brevets illégitimes, illégaux, mais qui ont été enregistrés au niveau de l'Office européen des brevets.
Voilà, donc tout ça pose des gros problèmes de légalité, outre le fait que, en gros, il y a cette volonté, en tout cas cette perspective d'abandonner du pouvoir et de laisser des institutions autonomes, non élues et pas vraiment contrôlées en roue libre. Tout ce projet pourrait devenir illégal, donc avec une possibilité que le projet en entier soit retoqué devant la Cour de justice de l'Union européenne. Mais bon, voilà, enfin, ça pose quand même de gros soucis. Le principe de la démocratie représentative, normalement, c'est d'avoir des pouvoirs politiques élus, etc., qui vont contrôler l'activité des institutions.
Alors, je rajouterais que Gibus, notre grand spécialiste à l'April, eh bien, il est au taquet là-dessus. Il a fait des propositions d'évolution et des amendements qui sont assez intéressants, qui laissent cette idée d'un brevet unitaire, mais qui permet de s'assurer de l'interdiction des brevets logiciels. On applaudit. Et puis bah, là, bah, ils vont peut-être y passer la nuit, parce que ça va discuter avec Frédéric Couchet. Ils sont au taquet, ils écoutent, ils regardent, ils vont voir comment ça évolue, ces discussions.
On enregistre lundi soir, pour préciser, donc c'est en train de se passer maintenant. Donc quand vous écouterez ça, sans doute qu'il se sera déroulé des choses, mais pour le moment, on ne peut pas vous en parler. Silicone.fr, Jim Zemlin, Linux Foundation, le logiciel propriétaire est condamné. Et c'est un article de Nerea Bilbao.
Un article, une interview. Donc justement, il interview le directeur exécutif de la Linux Foundation, et comme c'est bizarre, lui, il prédit la mort du logiciel privateur. Comment ça se fait ?
Enfin, déjà, il commence par dresser un panorama avec des éléments qu'on a déjà cités, qu'on a déjà vus dans d'autres articles, mais qui sont toujours bons de rappeler, en disant que, par exemple, dans les institutions publiques, il y a au moins un logiciel libre dans 93% des cas. On peut également rappeler que 80% ou 85% des serveurs qui servent à faire fonctionner Internet fonctionnent sous Linux, et qu'après ça, il y en a, ou au moins sous du logiciel libre, et que pour une bonne part, il y a un noyau Linux, que les téléphones Android, c'est pas du GNU Linux, mais il y a quand même un noyau Linux dedans, etc. Donc
c'est
Linux,
du libre.
Aujourd'hui, c'est du libre, enfin, c'est partiellement du libre, mais en tout cas, il y a le noyau Linux qui aujourd'hui est vraiment répandu de partout. Et je lisais aujourd'hui que, alors c'est de la rumeur, mais Windows 8 qui a été lancé la semaine dernière se vendrait certes à des millions d'exemplaires, mais à des niveaux un peu inférieurs à ce que Microsoft avait anticipé.
Oui, et surtout, c'est qu'il y a beaucoup de retours très négatifs sur le nouveau système d'exploitation, et ça, c'est toujours amusant à voir, parce que on n'est pas vraiment de leur
côté. Après, c'est un pari quand même très difficile de changer radicalement une interface. Forcément, ça va provoquer des critiques. Moi, je ne l'ai pas vu, donc je m'abstiendrai de critiquer trop. Même bon, si ça ferait plaisir, mais bon. En tout cas, en ce qui concerne ce truc de Jim Zemlin, l'article, il est quand même très orienté open source.
Ah, il faut rappeler, Linux Foundation, c'est des entreprises pour une grosse partie qui contribuent à l'association, et c'est grâce à leur contribution qu'il y a plein de développeurs qui sont payés, qui sont salariés. Donc, il y a vraiment pas mal d'argent. Des grosses boîtes comme Hewlett-Packard, IBM et beaucoup d'autres qui sont
Google,
là-dedans.
China Telecom.
Oui, c'est assez considérable. Donc ce gars-là, quand il parle, il a une certaine voix, il y a une certaine résonance, il faut l'avouer.
Voilà, donc en gros, dans la pure lignée du principe open source, il évoque l'intérêt pour faire du meilleur code, plus rapide, plus efficace, qui évolue mieux, etc. Il dit que le noyau, il est changé, il change toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, il y a une contribution au noyau Linux, ce qui est impressionnant. Mais voilà, toute cette question de liberté de l'utilisateur.
Et oui, l'éthique est mise de côté.
Il n'en parle pas du tout, voilà, ce qui est un petit peu
chagrinant. On est là pour ne pas l'oublier.
L'usine nouvelle, droits et devoirs de l'open data, un article de Marc Schuller et Guillaume Rimbaud.
Alors, c'est deux bons gars qui sont avocats à la cour, qui plus est.
Probablement spécialisés dans le domaine de la propriété intellectuelle, comme on dit. Et ben là, ils font un article juridique, accessible, qui est manifestement un article juridique de vulgarisation, et qui est à destination, je pense, de leurs clients potentiels, donc des entreprises qui pourraient avoir des soucis, et en tout cas se poser des questions sur l'open data. Et donc, ils dressent un panorama juridique précis, accessible, et en sensibilisant les gens sur des dangers, notamment sur le fait qu'il y a plusieurs licences et qu'elles n'ont pas du tout les mêmes fonctionnements, et qu'il faut faire gaffe à ne pas s'en mêler les pinceaux.
Et oui, ils parlent même de Creative Commons, qui est pas mal du tout, et ils expliquent explique, attention, il y a des clauses et il faut bien suivre ces clauses. C'est normal, c'est légal. Si vous ne le faites pas, vous êtes des contrefacteurs. Donc c'est un peu risqué. Je rajouterai, il y a un chiffre que moi m'a assez intéressé, c'est la mission Etalab, qui est un truc de l'État, hein, si je comprends bien, interministériel. Et ils ont recensé, semblerait, 350 000 jeux de données qui viennent de l'administration et autres établissements. Et donc ces 350 000 jeux de données, ce sont des ensembles qui font partie et qui contribuent à tout ce qu'on appelle l'open data. Ça me paraît considérable, je ne sais pas ce qu'il y a dedans exactement, mais en tout cas, c'est vrai, il y a peut-être des entreprises qui vont pouvoir se les accaparer, des individus, et en faire des choses utiles et ingénieuses, et on attend que ça.
Le Nouvel Économiste, le concept d'Open Innovation, un article de Lorelai Carive.
Alors ça, c'est The Article de la semaine, j'adore, c'est carrément un nouveau truc, un nouveau domaine, on va parler de pharmaceutique.
Bah, l'article est assez surprenant parce qu'on a tous plus ou moins entendu parler du domaine pharmaceutique et de leurs mauvaises habitudes par rapport à la protection de leurs brevets, de leurs molécules et ce genre de choses.
Oui, oui, ils refont les mêmes médicaments mais ils leur donnent un nouveau nom et voilà, hop, roulez jeunesse.
Pour repartir sur quelques années, c'est leur combat contre les génériques ou l'interdiction d'utiliser certains médicaments qui peuvent soigner des maladies qu'on n'a plus chez nous mais qui peuvent exister en Afrique par exemple ou des choses comme ça. Et là, manifestement, grosse évolution depuis quelques années où ces labos avaient de plus en plus de mal à innover et à sortir des nouvelles molécules.
Oui, ce qui nous faisait bien, bien rigoler de manière un peu cynique sur le côté, mais ils ont peut-être une solution finalement.
Voilà, bah, ils disent qu'ils ont largement développé des partenariats avec l'extérieur, soit des PME innovantes dans le domaine des biotechnologies, soit des universités où ils trouvent, semble-t-il, plus de talents, des gens plus pointus, plus compétents. Alors on imagine aussi dans des contextes plus souples où les gens ont plus de liberté et sont moins sous la coupe d'une grosse organisation, d'un groupe bien lourd, bien monolithique, et que assez naturellement, pour échanger avec ces gens-là, les licences libres, les principes du libre, ça s'applique.
Et oui, hein, donc moi, c'est ça que j'apprécie vraiment. Le côté centralisé, les grosses structures, elles arrivent à mieux bouger, elles sont plus agiles, et donc elles s'inspirent de l'open source, du libre. Moi, j'applaudis, parce que justement, je pensais que c'était des dinosaures, mais c'est peut-être des dinosaures qui ne vont pas mourir et se transformer. Ils vont peut-être continuer à faire ce qu'ils font bien, c'est-à-dire mener les médicaments dans leur pipeline, avec toutes ces problématiques légales, de suivi de règlements qui sont très complexes, qui sont très longues. Par contre, les talents, eux, c'est plus de l'agilité, c'est plus des petites structures, des gens qui vont et qui viennent. Et là, le modèle du libre, l'open source, a l'air de briller. Donc, bravo. Moi, c'est assez nouveau.
Il y a comme deux bémols qui sont donnés dans l'article. Hein. D'une part, en disant que la confrontation des cultures est parfois violente et qu'ils ont besoin de gens qui soient entre les deux.
Oui, ça doit faire des sacrés clashs même.
Voilà, et après ça, les labos qui disent « Mais nous, on a quand même besoin de protéger nos trucs parce que nos médicaments, entre le moment où on lance le machin et où ça arrive sur le marché, il se passe 8 à 9 ans et il est hors de question que la molécule soit libre, etc. » Donc, ils sont quand même dans une idée de poser des brevets et verrouiller le machin pour amortir leur investissement, comme ils disent, mais on... garantir leurs bénéfices également.
En attendant, moi je trouve que c'est des bons arguments pour rediscuter de toute cette propriété intellectuelle, parce que on utilise souvent le pharmaceutique comme un exemple de brevet qui soi-disant fonctionne ou en tout cas est utile. Je sais pas, moi je pense qu'il y a de l'évolution, tout ça c'est inspiré du libre, c'est intéressant et peut-être qu'on peut être plus innovateur autrement.
Village de la justice, le logiciel libre et le logiciel propriétaire sur un même pied d'égalité dans le secteur public. Point d'interrogation. Un article de Chloé Rousselet, qui est une juriste.
Et on reparle de la circulaire Hérault, la magnifique circulaire Hérault.
Voilà, l'article est vachement bien parce qu'au final, il dit exactement ce qu'on a dit à l'April quand la circulaire est sortie.
Oui, une répétition, donc en gros, la circulaire c'est bien, mais c'est pas suffisant.
Et oui, elle constate elle également qu'il n'y a rien qui impose quoi que ce soit. Une circulaire, déjà, c'est juste une recommandation, en tout cas une information. Et puis dans cette circulaire, il n'y a aucune obligation à utiliser du libre particulièrement. Donc cette personne, manifestement, est vraiment pro-libre dans son discours. Elle évoque en début d'article les avantages financiers que ça peut représenter, notamment. Et en gros, voilà, le propos est celui de l'April, hein, avec des arguments juridiques et des trucs un petit peu détaillés.
Bravo, joli article, on apprécie.
Enviscope.com, informatique, le libre et source d'économie, un article de Michel Desprost.
Petit article, mais ça fait pas de mal, on va parler un petit peu plus de local.
Donc ça, c'est du côté de la région lyonnaise, donc c'est une association, probablement association écologiste, qui s'appelle La Mouette, et qui en gros a spammé les 58 maires du Grand Lyon. Je dis spammé, c'est pas gentil, c'est pas péjoratif. Non, donc le Grand Lyon, c'est Lyon et toutes les communes alentours. Donc 58 maires en leur disant que ce serait peut-être bien de passer à LibreOffice, OpenOffice, plutôt que d'utiliser Microsoft Office.
Oui, qui coûte cher. Hein.
Voilà, donc leur estimation, c'est que le Grand Lyon, donc toutes les communes du Grand Lyon, pourraient économiser 900 000 euros en faisant ça. Et ils ont d'autres évaluations disant que si on mettait dans l'agglomération lyonnaise, logiciel libre partout, ils pourraient économiser 2 millions d'euros.
Donc c'est pas rien, on encourage, bravo.
ZDNet.fr, Laure Marino, professeur agrégé de droit, Apple ne pourra pas exploiter son brevet, entre guillemets, sur les coins arrondis pour faire condamner Samsung. Un article d'Antoine Duvauchel.
Et oui, parce qu'on en parlait la semaine dernière, aux US, ils viennent d'avoir un brevet de design, de conception sur les coins arrondis. Bon, c'est pas forcément un truc qui va aller très loin, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un discours assez pointu.
Oui, alors ce qui est intéressant déjà, c'est qu'elle dit que cette question de brevet de design, c'est vraiment un vocabulaire américain et que ça n'a rien à voir avec du brevet et que c'est couvert, en gros, c'est l'équivalent chez nous d'une autre notion juridique qui est le principe de design modèle et donc qui existe en droit français et qui est vraiment l'équivalent. Donc elle explique comment ça fonctionne hein, en disant voilà que c'est la différence et qu'après ça, c'est pas parce que le truc est déposé que automatiquement ça marche. Alors elle décrit pas mal le mécanisme consistant à déposer des trucs, des dessins et modèles dans tous les sens pour ensuite aller attaquer tout ce qui bouge, surtout quand on a les moyens, quand on s'appelle Apple, pour mettre des bâtons dans les roues.
Oui, elle appelle ça un dépôt de barrage.
Tout à fait, donc elle a l'air de trouver ça plutôt pas mal, hein, ce qui, moi, me chagrine un petit peu. Enfin,
On voit d'où elle vient, hein. Clairement, elle prêche une chapelle qui n'est pas la nôtre.
Mais bon, nous, on peut imaginer qu'une entreprise serait légitime à gagner de l'argent à partir du moment où elle rendrait des services corrects et des bons produits, etc., et non pas qu'elle mette des bâtons dans les roues de ses concurrents.
Et qu'elle vive d'une rente, hein, parce que c'est rien d'autre que des rentes, tous ces systèmes-là.
Tout à fait. Là aussi où j'ai un peu de mal à la suivre, c'est qu'elle explique que les entreprises investiraient énormément, beaucoup de travail pour déposer ces dessins et modèles. Et donc c'est vraiment une question de design, donc bon certes c'est du travail, mais entre développer un système d'exploitation, concevoir tout le hardware, etc. et faire un dessin design, je pense que c'est quand même pas la même masse de travail. Bien Manu, merci.
À la semaine prochaine.
Oui, salut.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vineau.
Et on les remercie chaleureusement. Cette revue de presse de l'April, qu'on peut retrouver évidemment sur le site Dogmazic ou sur divergence-fm.org, bien évidemment. Une petite.
Sur le site de l'April aussi, april.org.
Absolument, absolument. Et une petite news extraite de l'incontournable, indispensable et extraordinaire linuxfr.org. Une news postée par Pierre Jarillon, que l'on salue, l'inventeur des RMLL, modéré par Benoît Cibot, comme quoi c'est waouh, c'est du sérieux. C'est ce vendredi, ça sera trop tard pour vous rendre à Toulouse, ce vendredi 23 novembre 2012. Mais sachez tout de même, et c'est un signe des temps, comme quoi les mentalités aussi changent, l'Ordre des avocats de Toulouse organise un colloque intitulé « Le droit au libre » qui aura lieu toute la journée à la médiathèque José Cabanis. Ça se trouve donc à Toulouse, un colloque organisé avec le soutien de la bibliothèque de Toulouse et qui valide 6 heures de formation professionnelle continue si ça vous concerne. Entrée libre mais place limitée, donc inscription nécessaire. Et au programme, plusieurs aspects seront traités comme la propriété intellectuelle est-elle un frein à l'innovation mais aussi l'open hardware, l'open data ou encore rémunérer l'innovation et non la rente, dont on parlait dans cette revue de presse il y a une seconde. Il s'agit donc d'une vraie prise de conscience des changements majeurs initiés par le logiciel libre. On ne peut que s'en réjouir.
Et puis à Toulouse, si vous y êtes, il y a d'autres rendez-vous justement ce week-end, 24 et 25 novembre. On en parlera dans l'agenda du libre.
Et puis, on ne l'a pas dit au sommaire, mais on le précise tout de suite. Aujourd'hui, la musique, ce sera un des groupes piliers de la musique libre, Tsunami Wazari, qui sortent leur troisième album, Soma Ifi. C'est chez Fresh Pulp Records, référence FPR 064. Il est sorti le 11 novembre.
Oui, tout à fait. Donc, dernier volet donc, de cette trilogie où le but était d'explorer plusieurs influences sonores d'Asie, plus particulièrement d'Inde. Donc, un IP Sona Ifi, donc est plus personnel, détroit entre dub, world et trip-hop.
Voilà, qui a nécessité 9 mois de travail, puisque ça faisait 9 mois qu'on ne les avait pas vus sortir quelque chose. On va écouter All Deserve All, Tout Mérite Tout, une formule assez intéressante, ma foi.
et c'est en licence Creative Commons by NCSA 2.0.
Thank you.
Les Tsunami Wazari qui nous accompagnent pour cette 148e Divergence numérique sur Divergence FM, Radio Escapade, bientôt Radio Larzac. Et puis voilà, bah on en écoutera d'autres extraits. On rappelle que c'est sous licence Creative Commons by NCSA 2.0. Vous pouvez retrouver tous les liens vers le site de label Fresh Pool Records ou encore la page SoundCloud de Tsunami Wazari sur l'article de cette Divergence numérique, divergence-fm.org.
Oui, vous aurez reconnu la basse de notre ami Rico Da Alvarez.
Voilà, un des cofondateurs de l'association Musique Libre et de Dogmazic.
Que l'on salue au passage d'ailleurs.
Voilà, s'il nous écoute, et gageons que peut-être il a du temps pour nous écouter. À présent, eh bien, on va parler de la circulaire Héro, mais aussi on va parler du brevet unitaire, et tout ça au téléphone avec Jeanne Tadeuse, chargée de mission sur les questions de politique publique pour l'April. Jeanne Tadeuse, bonjour.
Bonjour.
Alors, on a failli savoir la semaine dernière au téléphone, et puis voilà, les dieux de la VOIP n'étaient pas avec nous. Bah, cette semaine, ça marche, et on est là pour parler de l'analyse détaillée et en profondeur qu'a menée l'April sur la fameuse circulaire Héro, signée du 19 septembre 2012, et qui recommande le bon usage des logiciels libres dans l'administration française. D'abord, l'April se réjouit, hein, parce que c'est quand même, on va dire, une bonne nouvelle. Pour autant, bah, voilà, il y a pas mal de choses qui sont un petit peu laissées de côté, y compris des choses un petit peu qui semblaient aller de soi. Je pense à l'accessibilité, par exemple. Mais il y a aussi des choses plus fondamentales qui coincent encore.
Tout à fait. Donc, pour mémoire, ce qu'on appelle la circulaire Héro, c'est donc cette circulaire qui a été signée par le Premier ministre qui traite de l'usage du logiciel libre dans les administrations. Et donc en fait, c'est une circulaire qui regroupe des orientations qui sont proposées par le Premier ministre pour le développement de ces usages. Donc effectivement, c'est une bonne nouvelle parce que c'est d'abord une vraie définition de logiciel libre. On sent qu'il y a une vraie maîtrise du sujet dans la note qui a été faite par la Direction interministérielle des systèmes d'information et de communication. Puis on a aussi des pistes de réflexion et d'action qui sont plutôt intéressantes et qui, de même, témoignent d'une maîtrise visible du sujet. Et puis aussi, ce qu'on a noté dans notre analyse, c'est qu'on a, par ce texte, une vraie reconnaissance d'un travail qui est mené depuis longtemps en interne dans les administrations. Et c'est vrai que c'est une vraie bonne nouvelle de voir ce travail reconnu aussi publiquement. Comme vous l'avez dit, on est effectivement très contents de cette circulaire, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, reste effectivement à convertir en action concrète dans les ministères, et notamment avoir un signal politique qui devienne des actions réelles en faveur du logiciel libre. Donc effectivement, on a noté quelques points qui sont principalement finalement des points d'oubli, une exception près qui est la question des standards ouverts. Donc notamment la question de l'accessibilité est absente, alors que ça aurait pu avoir complètement sa place dans ce texte, mais aussi la question de l'éducation. On a trouvé assez frappant que la question de l'éducation soit absente de cette circulaire. C'est d'ailleurs pour ça que l'April a demandé un rendez-vous à Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale, pour en discuter. Et aussi toute absence de mention de réforme du RGI, donc les référentiels généraux d'interopérabilité, qui avait été finalement un des moyens de faire rentrer un certain nombre de technologies non libres dans les ministères en vidant complètement de sa substance ce texte par l'autorisation de formats fermés et de formats virtuels comme les formats de Microsoft.
Oui, voilà, les formats qui restent quelque part un passage obligé si on veut penser globalement libre, on va dire.
Oui, absolument. La question des formats, plus précisément des standards, et notamment des standards ouverts utilisés par les administrations, est une question absolument cruciale pour le logiciel libre. C'est-à-dire que seule l'utilisation de standards qui soient réellement libres, enfin réellement ouverts, permet l'usage du logiciel libre, puisque l'usage de standards fermés exclut de fait tous ceux qui n'ont pas finalement développé ou payer des royalties à ceux qui ont développé ce standard. Mmh. Donc on a une vraie importance sur ce sujet-là. Et on peut citer d'ailleurs les exemples à la fois britanniques et portugais qui viennent de mettre en place des politiques très volontaristes pour l'usage de standards ouverts et de standards ouverts uniquement dans les administrations. Donc on peut regretter que ce ne soit pas présent dans, dans la circulaire aéro, même si on peut aussi espérer que ça fasse l'objet d'une autre réforme par la suite.
Il y a aussi un dernier point, c'est l'utilisation de la terminologie entre guillemets propriété intellectuelle qui, on va dire, ne fait pas encore débat à ce niveau-là du gouvernement.
Voilà, elle ne fait pas encore débat. C'est vrai qu'on a fait la remarque parce que parler effectivement de propriété intellectuelle, c'est une imposture, ne serait-ce que parce que ça regroupe et fait croire que ce sont les mêmes questions qui se posent pour des choses qui sont extrêmement différentes. Mmh. Par exemple, il y a à la fois le droit des brevets, le droit d'auteur, le droit des marques, le droit du design, etc., qui sont tous regroupés là-dedans, ce qui n'a finalement aucun sens. On peut effectivement regretter que le terme soit utilisé, même si on peut quand même noter que par ailleurs, sur d'autres termes, notamment logiciel libre, on a une utilisation non seulement correcte, mais importante du terme qui est faite par la circulaire.
Nonobstant, ça a quand même fait grand bruit, hein, cette circulaire. Et puis, il y a des choses qui sont passées au niveau des marchés publics, etc. L'Inagora a remporté un gros marché à titre d'exemple. Et puis, c'est vrai que ça a créé une espèce de vague un petit peu dans le monde de l'entreprise, notamment.
Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un signal politique qui est très important. Qui est nouveau et à ce titre très apprécié par l'ensemble des entreprises du secteur du logiciel libre, parce qu'on a vraiment une reconnaissance non seulement de l'existence, mais aussi de la valeur des produits libres et de l'existence finalement de toutes les entreprises libres et aussi des communautés comme au moins acteurs à part entière possible des systèmes d'information des administrations. C'est d'ailleurs ce que dit la circulaire quand elle dit que le logiciel libre doit être traité c'est ce que dit le courrier de Jean-Marc Ayrault qui introduit la circulaire et qui dit que le logiciel doit être enfin considéré à égalité avec les solutions propriétaires et c'est finalement ce qu'attendent beaucoup de personnes dans le monde du logiciel libre, dans les entreprises du libre, mais aussi plus largement citoyens et activistes.
Pour la suite, il s'agira de voir comment tout ça se concrétise et puis de voir si les communications, les propositions que l'April fait régulièrement au gouvernement ou ailleurs seront écoutées.
Absolument. Effectivement, on attend maintenant que ce soit suivi par des actes. Il y a des propositions qui ont été faites, qui seront à nouveau faites par l'April. Et dans les prochains projets de loi, propositions de loi et aussi règlements, on attend donc des actions concrètes de la part du gouvernement de l'ensemble de la classe politique.
Mmh. Deuxième point chaud en ce moment pour l'April et pour le libre en général, c'est le brevet unitaire. La semaine dernière déjà, vous disiez en France, il semble urgent de ne rien faire. Depuis, il y a des choses qui ont bougé. C'est quoi l'actualité là?
Donc, il y a eu un certain nombre d'actualités depuis la semaine dernière, puisque la commission des affaires juridiques du Parlement européen s'est réunie en réunion extraordinaire lundi dernier en soirée pour discuter du texte. Alors pour des raisons techniques, débat n'a pas été diffusé en ligne. Malgré tout, d'après, on a eu quelques informations qui ont filtré sur le sujet. Et donc d'après nos informations, il semblerait qu'il n'y aura pas de nouveau vote en commission et que donc le texte repassera directement en plénière du Parlement européen en décembre prochain. Mmh. Donc a priori le 10-11 décembre.
D'accord, parce que ce qui est coincé notamment, c'est le fait que le projet soit probablement illégal au vu du droit européen.
Oui, le projet est probablement illégal au regard du droit européen. Même de nombreux fonctionnaires de la Commission le savent, puisque un fonctionnaire qui a un expert en termes juridiques à la Commission européenne l'a mis dans une présentation qu'il avait faite auprès de l'Office européen des brevets, comme quoi la base juridique elle-même qui a été utilisée pour fonder le brevet unitaire est probablement illégale. Donc on a clairement un texte qui est pour le moins très incertain juridiquement, qui en plus ne respecte pas les droits de chacun, notamment en termes de garde-fous et la possibilité qu'on ait pour les institutions démocratiquement élues de fixer le droit des brevets, puisqu'on finalement donne le droit des brevets à des organismes internationaux qui ne sont pas élus. Mmh. Et en plus, on voit aujourd'hui donc d'un seul coup l'examen du texte qui accélère au regard d'une mobilisation qui commence à être de plus en plus forte, et en plus des illégalités qui sont répétées par des acteurs de plus en plus nombreux et des acteurs de premier plan. On voit la Commission européenne, comme aussi le Parlement, accélérer l'examen du texte pour que la Cour de justice, notamment, n'ait pas le temps de rendre un avis sur l'éventuelle légalité du règlement sur le brevet unitaire.
Oui, puisqu'elle devrait rendre son avis début 2013, ce qui est voilà, évidemment après le début décembre.
Il y a plusieurs avis qui seront sans doute attendus, mais début 2013, il y aura un avis déjà sur la procédure qui a été choisie, qui devrait être rendu en début 2013. Mais d'ailleurs, on peut noter aussi que le vote en plénière du Parlement européen sera a priori le 10 et 11 décembre, mais on n'a toujours pas l'avis du service juridique du Parlement européen, puisque la dernière réforme du texte date de lundi dernier, donc simplement ils n'ont pas eu le temps de se prononcer. Donc on n'a même pas d'avis du service juridique du Parlement européen lui-même, on demande déjà aux députés européens de se prononcer.
Voilà, donc en quelque sorte, ça explique le titre choisi sur l'article qu'il y a sur le site de l'April, un compromis qui écarte le Parlement, le droit européen et les citoyens. Plus que jamais, c'est le moment de les contacter, les députés.
Voilà, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est vraiment de contacter les députés et en premier lieu de contacter le rapporteur sur le dossier, Bernard Rapquet, qui, et c'est d'ailleurs intéressant, puisque lundi, avait dit qu'il fallait... qu'un texte soit adopté, mais à condition de ne pas franchir un certain nombre de lignes rouges, dont notamment le respect des droits du Parlement européen et les questions de base juridique, alors même que ces lignes rouges-là ne sont pas respectées dans le texte qui sera finalement proposé en plénière. Mmh. Donc comme il ne respecte pas les principes qu'il pose lui-même, c'est important de le lui signaler pour vraiment montrer que c'est pas simplement une question technique, ce brevet, ça nous concerne tous, parce que dans la mesure où c'est la porte ouverte au retour des brevets logiciels, ce qui est un des plus grands dangers qui menace actuellement le logiciel libre.
En plus, on précise, hein, l'April a mis en place des outils où il suffit de cliquer pour appeler gratuitement les eurodéputés.
On a mis en place un outil qui permet d'appeler gratuitement. En fait, vous rentrez votre numéro de téléphone et on vous rappelle pour vous mettre en contact directement avec un député. Donc, ça ne vous coûte rien. C'est très simple. Vous n'avez pas besoin de chercher le numéro de téléphone. Et par ailleurs, d'ailleurs, sur le site, il y a aussi des exemples de dialogue, des exemples de courriels envoyés aussi, pourquoi pas, pour vraiment avoir toutes les ressources à disposition pour pouvoir contacter les eurodéputés.
Jeanne Tadeuse, merci beaucoup. Et puis, bonne lutte d'ici la prochaine fois.
Merci à vous.
Au revoir.
À bientôt.
Voilà, évidemment, april.org pour bien retrouver toutes les infos, tous les argumentaires, les outils pour contacter vos eurodéputés.
Comme quoi, ça devient de plus en plus facile. Hein.
Bah oui, mais
la mise en relation avec ton eurodéputé.
Il faut quand même le faire, et c'est le premier pas qui vous coûte le plus. Mais une fois qu'on l'a fait, on est bien dans l'eau de la piscine. Alors, on passe à la suite. La suite, ça va être de la musique. Et juste après, on parlera des rencontres mondiales du logiciel libre, un événement non commercial qui, depuis plus de 10 ans, se déroule un petit peu partout, notamment en France. Cette année, c'était à Genève. On sera au téléphone avec Lionel Lourdin dans 5 minutes. Pour parler bilan de l'édition 2012 des rencontres mondiales du logiciel libre, dont l'édition 2013 aura lieu à Bruxelles. Le comité des RMLL l'a confirmé hier, c'est tout chaud.
Cette nuit même.
Cette nuit ?
Ah, oui, cette nuit.
Eh bien alors, j'ai dû rentrer très, très tard chez moi et je pensais que c'était encore hier, mais ce n'était que ce matin.
Le mail est passé à minuit 45 et annoncé sur le site à 10h30 à peu près.
Oui, d'accord. Donc, c'était bien cette nuit. Et puis, on écoute donc un autre extrait de Tsunami Wazari avec leur album Soma Ifi. Et là, ce sont des esprits moléculaires qui vont nous accompagner. Molecular Minds.
Toujours en CC. We'll be right back.
Molecular Minds, c'est Tsunami Wazari qui nous accompagne pour cette 148e divergence numérique avec cet album Soma Ifi, pardon, sorti évidemment chez Fresh Pulp Records sous la référence FPR 064, comme je vous le disais, oui Pascal.
Et de la musique libre sous licence Creative Commons, n'oublions pas de les citer, donc by NCSA 2.0.
Absolument, absolument, c'est indispensable. Comme je vous le disais bien il y a quelques minutes, on va faire un bilan des RMLL 2012 et c'est Lionel Lourdin qui est avec nous au téléphone. Bonjour Lionel.
Bonjour Lionel.
Bonjour.
Alors voilà, c'est on, à 6 mois presque après les rencontres mondiales du logiciel libre, j'imagine que on peut dresser un bilan et surtout avoir des chiffres, car on sait très bien que même si les chiffres ne disent pas toujours tout ce qu'ils devraient dire, ils sont néanmoins incontournables.
Oui, complètement. C'est une notion importante. Même si, de notre côté, tout n'est pas encore fini au niveau comptabilité, les derniers éléments sont en train d'être faits. Ça va être terminé d'ici la fin novembre, donc à quelques jours. On a encore 2-3 conseils avec le comité de gestion pour finaliser 2-3 choses, mais j'ai déjà des jolis chiffres à pouvoir vous donner. Je pense qu'on va commencer tout simplement par les chiffres qui font la faisabilité de ces RMLL, qui est le soutien que apportent les institutions, les organismes qui accueillent l'événement. Premièrement, sur cette année 2012, pour la 13e édition, on a pu voir un apport d'environ 120 000 francs suisses de subventions réelles en finance qui ont permis d'organiser le cœur de ces RMLL et d'assurer l'infrastructure qui se comporte de 75 000 francs issus de la Loterie Romande, qui est un organisme qui aide à l'organisation de projets sur le territoire romand, qui a été complété pour arriver à un total de 120 000 francs par les apports des différents partenaires qui soutiennent les RMLL, que je profite de l'occasion pour les remercier vivement, car sans eux, nous n'aurions pas pu organiser cet événement avec la réussite qu'il a été. Donc voilà pour le budget, je dirais, de liquidité. Il faut comprendre que sur ces 120 000 francs d'apport en finance, c'est une part du budget global qui ont permis les RMLL, étant donné que dans l'organisation des RMLL, il y a une grande partie qui est de la valorisation de par les apports en matériel, en logistique qu'apportent les partenaires, et nous arrivons à un budget global avec valorisation pour ces RMLL qui dépasse les 350 000 francs suisses. Les chiffres exacts seront publiés courant décembre dans un rapport officiel qui sera transmis, entre autres, pour pouvoir rendre des comptes et démontrer aux autorités locales de Genève l'impact et l'effervescence, je dirais, de cette participation collective qui a permis ce succès pour ces RMLL 2012.
Voilà donc des chiffres assez éloquents.
Oui, ce qui donne 301 000 euros pour nous, francophones européens.
Exactement. Et je pense qu'il y a un point important à souligner qui fait partie justement du rapport que nous sommes en train de faire, c'est grâce à la participation et l'assistance d'Ubicast dans le cadre de la numérisation de plus de 100 heures de contenu à travers 200 conférences qui ont pu être publiées dans les jours qui ont suivi l'événement, une valorisation aussi importante qui n'est pas prise en compte dans ces chiffres, c'est cet apport, je dirais, de savoir académique de toutes ces vidéos qui sont aujourd'hui disponibles sur le site vidéo.rmll.info, mais également disponibles au sein des serveurs de l'Université de Genève, qui donne un apport à quelque part très dur à chiffrer, étant donné que si on avait voulu le faire de manière normale, avec des budgets classiques dans un autre type d'événement, les budgets globaux augmenteraient bien sûr significativement, car le travail qui a été fait derrière est magistral et a donné un très bon résultat. Et je dois dire que cette plateforme vidéo.rnl.info, j'ai très souvent tendance, chaque semaine, d'aller regarder une petite vidéo pour pouvoir compléter ce que je n'ai pas pu voir en tant qu'organisateur, étant donné que c'est toujours difficile de suivre les conférences quand on gère cet événement.
Oui, c'est vrai que par rapport au contenu des conférences, à savoir le savoir, comme le dirait probablement Antoine Moreau, l'inventeur de la licence art libre, en l'occurrence, je veux dire, cet apport-là de la connaissance, il est inestimable. Donc on ne peut pas le mettre dans les budgets.
Non, exactement. Et ça serait de faire de la spéculation pour pas grand-chose. Ce qui est intéressant de voir, c'est que suite à ces RMLL à Genève, nous avons eu de notre côté de nombreuses félicitations et écho très positif de la part des administrations publiques, de conseillers d'État aussi qui ont suivi l'événement, de la sphère universitaire, pour plusieurs raisons. Déjà, un, pour l'efficience, je dirais, budgétaire et cet apport que l'on apporte à la sphère académique grâce à cette organisation des RMLL et ses vidéos, mais aussi pour l'organisation qui s'est passée sans aucun souci, sans aucun problème, sans problème de grave ou autre, même petit problème. L'organisation s'est très bien déroulée et surtout une chose qui a été soulignée par l'université et les différents acteurs, c'est que le rangement qui a été effectué le dernier jour a été un succès réalisé avec une grande rapidité. Nous avons eu plusieurs services de la ville qui nous ont remerciés et qui ont été très joyeux, je dirais même, dans leur approche, de voir à quel point l'événement n'a laissé aucune trace, aucun problème dans la région, et tout a pu être rendu en ordre, sans problème de casse ou de matériel, qui fait que l'événement RMLL à Genève est très bien vu, et je pense que Genève sera tout intéressé dans les prochaines années de pouvoir peut-être une fois réaccueillir cet événement. En tout cas, ça a laissé une très belle trace à Genève, et l'événement a été très très bien perçu par les sphères des administrations publiques et autres partenaires locaux.
Alors justement, après l'événement, peut-être avant d'aborder les chiffres de la fréquentation, ça a fait des petits. J'ai cru comprendre que la Free IT Foundation, bien maintenant, vous avez pas mal de projets qui tournent autour du libre, qui pourraient apporter leur pierre à l'édifice et qui sont peut-être consécutifs à l'organisation de ces RMLL 2012.
Alors oui, complètement. Je dirais que ça a permis pour la Free IT Foundation qui portait cette organisation en collaboration avec les acteurs locaux, a permis aussi de crédibiliser sa démarche auprès des technologies libres et de démontrer l'efficience de cette philosophie participative et communautaire pour le développement de ce type de projet. Aujourd'hui, la Free IT Foundation, dans la lignée de ce qu'elle faisait déjà depuis 7 ans, a pu renforcer son impact auprès des sphères internationales, entre autres auprès de l'ONU, de l'UNESCO, par rapport au développement de projets pour la coopération décentralisée basés sur des technologies libres. D'autre part, ça a créé un effet de sensibilisation auprès de différents acteurs socio-professionnels du marché, que ce soit des fédérations d'entreprises, des chambres du commerce, qui se rendent compte que les technologies libres sont une réelle solution pour permettre de développer des technologies à valeur ajoutée, pour favoriser le développement local, la mise en avant des entreprises et des interactions. Et depuis les RMLL, nous avons été sollicités à plusieurs reprises pour participer à des conseils ou des expertises afin d'aiguiller des autorités collectivités, des administrations dans l'utilisation de ces technologies libres. Donc c'est à ce niveau-là, notre conseil de fondation, nous sommes vraiment très satisfaits et heureux que M. Alexandre Polterac, membre du conseil et fondateur de la Freetie Foundation, ait pris cette initiative en 2011 lorsque l'on avait appris que Liège ne pouvait pas suivre. Et c'était vraiment une très très belle expérience.
Oui, on avait vu pas mal dans les conséquences après les RMLL. On avait vu, par exemple, en 2008 à Mont-de-Marsan, le Conseil général avait, dans la foulée, financé la publication d'un livret pédagogique à destination de tout le monde pour faire de la pédagogie. C'est quoi le libre, etc. On avait vu aussi après l'édition à Amiens, là aussi, je crois, le Conseil général qui avait financé les Hack Days organisés par les éleveurs de pingouins picards. Donc effectivement, il y a toujours de bonnes retombées finalement derrière. Et puis peut-être qu'on peut aussi dire quelques chiffres sur la fréquentation. Est-ce que vous avez des chiffres définitifs sur la fréquentation ?
Alors oui, on a des chiffres définitifs au niveau, par exemple, du nombre de participants qui ont été inscrits, qui ont utilisé les interfaces et qui ont été, je dirais, des acteurs récurrents, journaliers. L'interface atteint presque à quelques unités près les 1000 participants exactement. Donc on peut estimer, c'est toujours dur d'estimer une valeur globale des visiteurs uniques, mais en visiteurs cumulés pour chaque jour, nous arrivons largement aux 5000 visiteurs, en prenant en compte, bien sûr, les 1000 participants et les personnes qui étaient là qui reviennent chaque jour, mais aussi les effets externes des publics et des entrepreneurs qui sont passés. Je dirais que les visites, on avait vu qu'on avait eu quelques problèmes de communication à cause d'un manque de connaissance de cet événement à Genève. Je pense qu'une prochaine édition sur Genève dans quelques années permettrait de faire un plus grand résultat à ce niveau-là, étant donné que maintenant les autorités et les acteurs savent ce que sont les RMLL. Le fait d'être sorti de la France a permis aussi d'appuyer ce côté international, et on le remarque aussi avec la candidature là, qui vient d'être validée tout récemment par le comité des RMLL concernant Bruxelles pour l'édition, la 14e édition, qui va venir pouvoir renforcer cette étape-là. Et c'est vrai qu'on se réjouit de cette édition à Bruxelles, car de notre côté, avec la Freetie Foundation, nous allons appuyer auprès des administrations et de l'État de Genève afin de pouvoir avoir une présence assez forte sur Bruxelles pour renforcer cette notion d'internationalisation et d'intérêt de plusieurs pays à cet événement-là. Donc au niveau succès, on aurait aimé faire plus de visites et qu'il y ait plus de force à ce niveau-là, mais je pense que les résultats sont tout à fait convaincants. Et on essaiera de faire beaucoup mieux lors d'une prochaine fois. Je dois dire que Bruxelles s'annonce assez bien, en tout cas pour le dossier qui a été publié et les événements qui sont en cours. Je pense que les RMLL ont pu reprendre une belle dynamique, avoir aussi les 4 candidatures qui ont été posées pour la 14e édition. Je dirais qu'on se réjouit de l'avenir pour ces RMLL.
Voilà, et puis on précise aussi que l'édition genevoise, comme tu l'as précisé, a été organisée suite à la défection de la ville de Liège. 6 mois pour organiser cet événement avec un bilan aussi positif. On ne peut que vous applaudir des deux nageoires. Et puis, lors d'un prochain coup de fil, je pense qu'on pourra aussi détailler un petit peu toute l'actu autour de la Freetie Foundation qui soutient diverses initiatives comme pas mal de conférences qui ont lieu autour du libre à Genève. Donc on n'hésitera pas, même si on ne parlera plus des RMLL, eh bien, à vous rappeler à la Freetie Foundation pour parler de ce qui se passe du côté du libre en Suisse.
Avec grand plaisir. Et juste à titre d'indice, un des grands sujets de discussion autour du libre maintenant à Genève et auprès des différentes fédérations, c'est justement les modèles économiques du libre qui intéressent de plus en plus des acteurs, qu'elles se rendent compte que c'est un moyen de créer de l'emploi et de dynamiser l'économie locale en finançant des technologies libres qui permettent une participation communautaire et un partage de ces apports. Et je dois dire que l'effet des RMLL, si j'ai quelque chose à retenir en tant que président de la Freetie Foundation sur l'impact auprès des autorités genevoises, c'est cette prise de conscience que des modèles économiques autour du libre sont aujourd'hui viables, et la démonstration qui a été faite à l'événement a permis de créer cet intérêt et cette confiance autour de ces modèles-là. Donc on se réjouit de la suite des opérations.
Et on se réjouit avec vous. Merci beaucoup Lionel.
Merci beaucoup.
Et puis nos amitiés à Alexandre Polterac qui n'a pu être en duplex au téléphone avec nous.
Je transmettrai.
À très bientôt.
À bientôt.
Merci, à bientôt. Au revoir.
Voilà donc Lionel Lourdin de la Freetie Foundation à Genève qui organisait les RMLL 2012.
12. Il nous reste trop peu de temps pour écouter les trois autres titres que nous avions de Tsunami Wazari. On va peut-être tout simplement se quitter sur un de ces titres, non sans avoir au passage donné quelques rendez-vous. Et on parlait de tout à l'heure, on parlait de Toulouse avec cette news sur l'unixfr.org de l'Ordre des avocats de Toulouse qui organise ce colloque Le droit au libre ce vendredi 23. La propriété intellectuelle est-elle un frein à l'innovation? Open hardware, open data, rémunérer l'innovation et non la rente. Que des idées que défendent pas mal de libristes. Donc une vraie prise de conscience à Toulouse. Et à Toulouse, c'est aussi le Capitole du Libre.
Oui, le Capitole du Libre le samedi 24 et dimanche 25 novembre 2012 à l'ENSEEIHT, l'École nationale supérieure de l'électrotechnique, électronique, informatique, hydraulique et des télécommunications, qui se trouve 26 rue Pierre-Paul Riquet à Toulouse, métro ligne B, François Verdier. Et qu'est-ce qu'on y retrouve donc au Capitole du Libre, qui est en fait un petit jeu de mots hein, entre la place du Capitole. On y retrouve déjà des événements qui sont organisés par l'association Tout Libre et Ubuntu FR, donc qui ont fait un événement en commun. Dedans, il y a de l'install party d'Ubuntu, il n'y a pas que ça, il y a aussi de l'open hardware avec des ateliers Arduino, il y a des conférences également. Il y a tout le programme, c'est sur capitoledulibre.org. C'est la deuxième édition déjà, avec donc des conférences grand public, des conférences techniques, des conférences multimédia, des conférences éclairs, qui est la traduction de Lightning Talks. Moi, j'aime bien. Voilà, donc on aura aussi une conférence de clôture animée par Jérémy Zimmermann, cofondateur de la Quadrature du Net. Et puis des ateliers donc, autour d'Ubuntu, OpenStreetMap, Git, OpenStack, Puppet, Blender. Donc une partie graphique. Et puis notre Toulousain adoré David Revoy, qui est art director sur les derniers projets de l'Open Movie. De la Blender Foundation, il sera présent pour aussi quelques conférences et ateliers justement avec les outils graphiques qu'il aime bien manipuler.
Et puis aussi, un des rendez-vous de ce week-end, c'est le 23 et 24 novembre, les Journées méditerranéennes des logiciels libres, septième édition de cette manifestation à laquelle tu te rendras samedi pour recueillir quelques interviews et puis évidemment rencontrer les organisateurs et puis phosphorer avec tous ces gens, sans oublier de tenir un petit stand de Montpellier Wireless.
François Wireless, oui, ça, j'ai la casquette François Wireless, effectivement, donc à Sofia Antipolis, ça commence déjà dès vendredi 23 à partir de 14h, ça se poursuit jusqu'à samedi 18h30, des ateliers, des conférences avec différents protagonistes que l'on connaît bien. Il y aura Frédéric Couchet, Benjamin Bayard. Effectivement, on ne peut pas être à Nice et à Toulouse en même temps, donc il fallait un peu choisir.
Et oui.
Mais voilà. Donc voilà.
Mais nous nous dédoublerons plus désormais à l'avenir pour essayer d'être partout et nulle part à la fois. On va refermer cette divergence numérique 148e du nom en vous rappelant que agendadulibre.org pour l'Hexagone, .be pour la Belgique, .ch pour la Suisse et .qc.ca pour le Québec. Pour toutes les autres dates et rendez-vous de vos groupements d'utilisateurs Linux favoris. On se quitte donc avec Tsunami Wazari Enlightenment, extrait toujours de cet album Soma Ifi qui vient de sortir chez Fresh Put Records. On retrouve tous les liens de cette musique en licence Creative Commons by NCSA
2.0.
Voilà, je n'ai pas oublié. Et on vous souhaite de rester libre et on vous souhaite une excellente semaine.
Bonne semaine à tous.
Salut.
Ciao.